Bonjour mes chers auditeurs et chères auditrices. Aujourd'hui, nous reprenons notre série d'émissions sur la bonne nouvelle aux musulmans et nous allons regarder de près la vie des chrétiens au quotidien, ou de façon plus simple, comment vivent les chrétiens. Si vous avez des objections à formuler et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à nous écrire à radio-silence@wanadoo.fr. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Récapitulons d'abord que tout ce que Dieu nous offre de bien par sa création et par l'œuvre de la rédemption et de la sanctification, que tout cela est résumé dans le symbole de la foi. Ce que la foi confesse est consolidé par les saints sacrements. Par les saints sacrements, tout d'abord par le baptême, nous ne sommes plus des esclaves de Dieu, mais nous sommes devenus ses enfants chéris et nous participons à la nature divine comme nous pouvons lire dans saint Jean, 1er chapitre, verset 12, ou dans la première épître de saint Jean, 3e chapitre, verset 1, et dans la première épître de saint Pierre, 1er chapitre, verset 4. C'est pourquoi les chrétiens sont tenus de vivre selon l'esprit de l'Évangile. La grâce du Christ et les dons du Saint-Esprit qui reçoivent par les sacrements et la prière les aident à accomplir cette tâche. Jésus avait toujours accompli la volonté du Père. Il vivait en parfaite harmonie avec lui. C'est pourquoi les disciples de Jésus sont également appelés à vivre toujours devant la face du Père, qui voit tout ce qui est caché. Regardez saint Matthieu, 6e chapitre, verset 6, pour qu'ils deviennent parfaits comme est parfait le Père céleste. Il n'y a que Jésus qui est la voie, la vérité et la vie. Si nous le suivons plein de foi, il accomplira ses promesses en nous, et si nous l'aimons, nous allons toujours agir selon la dignité chrétienne. Qu'est-ce que c'est que l'Église ? Le mot « Église » vient du grec « ecclesia », qui de son côté vient du verbe « ekaléin », et cela veut dire « appeler », »,« clamer tout haut ». « Ecclesia » veut donc dire « rassemblement de tous ceux qui sont appelés ». Or, c'est le rassemblement de tous ceux qui sont appelés par le Verbe de Dieu, pour qu'ils forment le peuple de Dieu. Nourris par le corps du Christ, ils forment eux-mêmes le corps mystique du Christ. Dieu appelle chacun de nous sans exception, sans égard au pays, à la nationalité, à la famille ou à la couche sociale. Pour pouvoir vivre selon la volonté de Dieu, les chrétiens se sont rassemblés dès le début pour les célébrations eucharistiques, surtout le dimanche. Pour eux, c'était vital. Lorsqu'on a commencé à torturer cruellement les chrétiens des Bitines en Afrique du Nord, actuellement en Tunisie, en 304, pour leur foi chrétienne et la célébration de la Sainte Messe le dimanche, ils étaient environ une cinquantaine, ils ont déclaré « Sine Dominica non possumus ». C'est-à-dire, nous ne pouvons vivre sans la Sainte Messe le dimanche. Donc, si on néglige la Sainte Messe le dimanche, on se prive soi-même de la plus grande nourriture spirituelle et on risque de perdre la foi. Pour la vie de la communauté, c'est également un grand danger, car là où il y a deux ou trois réunis en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Dans la Sainte Messe, Jésus nous parle par sa parole, l'Évangile, par les textes de la Bible. Il agit dans la personne du prêtre, mais il est surtout réellement présent dans les espèces eucharistiques, à savoir la Sainte Hostie et le vin, qui au moment de la consécration deviennent le corps et le sang du Christ. Par la Sainte Communion, il devient lui-même notre nourriture, et il s'unit à nous dans une union divine. L'Église, c'est-à-dire l'alliance de Dieu avec l'homme, est la voie et le but du plan de Dieu. Elle est déjà mystérieusement préparée dans l'Ancien Testament. Elle a été fondée par les paroles et les œuvres du Christ, par son sacrifice rédempteur sur la croix et sa sainte résurrection, et elle est révélée comme mystère du salut par l'effusion du Saint-Esprit. Un jour, elle sera achevée dans la gloire du ciel par la communion de tous ceux qui ont été rachetés par le précieux sang du Christ. L'Église est à la fois visible comme institution, mais elle est aussi invisible comme communauté spirituelle. Elle est structurée hiérarchiquement, mais elle est aussi le cœur mystique du Christ où chacun trouve sa place. L'Église est dans ce monde le sacrement du salut, cela veut dire le signe visible où Dieu agit lui-même. C'est le signe et l'instrument de la communion avec Dieu et les autres hommes. L'Église trouve son expression la plus réelle et la plus profonde dans la Sainte Liturgie, surtout dans la Sainte Messe. Elle vit de la parole et du corps du Christ, et ainsi elle devient elle-même corps du Christ. Pourquoi sommes-nous appelés à verser notre denier du culte? Il faut rappeler que personne n'est obligé de payer pour recevoir un sacrement ou une prestation spirituelle ou sociale de l'Église. Mais puisque l'Église s'occupe des plus démunis, des laissés pour compte, il lui faut de l'argent. De plus, elle doit subvenir aux besoins personnels du clergé. Remarquez que les prestations financières de l'Église, les rémunérations du clergé, varient de pays en pays. Mais il est clair que c'est un point d'honneur pour un chrétien de contribuer aux besoins financiers du clergé et de toutes les structures sociales de l'Église. De plus, les dons versés à l'Église permettent aussi de sauvegarder un bien culturel qui est à la base de notre identité chrétienne. Deuxième point, vivre sa foi au jour le jour. La prière du matin, à midi et le soir. Dans le psaume 119, versets 145 à 47, nous lisons déjà. J'appelle de tout cœur, réponds-moi Yahvé, je garderai tes volontés. Je t'appelle, sauve-moi, j'observerai ton témoignage. Je devance l'aurore et j'implore, j'espère en ta parole. Donc, dès le réveil, le chrétien se tourne vers Dieu pour le remercier d'avoir passé une bonne nuit et pour lui confier la journée qui vient. Vous pouvez utiliser des prières toutes faites. Vous pouvez dire cette action de grâce avec vos propres paroles. On commence le jour et la prière du matin par le signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Rappelez-vous la signification du signe de la croix. C'est un des gestes les plus fondamentaux de la prière chrétienne, toujours fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il rappelle en même temps la mort sur la croix et la résurrection du Christ et la profession de foi trinitaire. En quelque sorte, c'est un condensé de la foi car en quelques mots, les éléments les plus essentiels sont dits. Il ne s'agit pas d'une parole magique, mais d'une affirmation. La personne qui fait son signe de croix exprime sa foi au Dieu trinitaire. Alors c'est tout un programme. Faire le signe de la croix avec foi, respect et amour, c'est déjà être témoin de Jésus-Christ mort et ressuscité. Puis vous enchaînez une prière de votre choix, par exemple l'Angélus, nous en reparlerons encore, ou la consécration à la Sainte Vierge, en récitant le « Ô ma souveraine, ô ma mère, je m'offre tout à vous », ou une prière au Saint-Esprit, « Respire en moi afin que je pense ce qui est saint ». De toutes ces prières, Nous en avons déjà parlé dans la première partie du catéchisme. À midi, au zénith de la journée, nous nous arrêtons pour manger, pour fortifier notre cœur. Mais nous devrions aussi élever notre cœur vers le Seigneur et le remercier. Dans beaucoup de villes et de villages chrétiens, on sonne l'Angélus, au moins à midi, pour inviter les fidèles à remercier Dieu qu'il a envoyé son Fils pour nous racheter. Nous remercions donc Dieu de l'incarnation de Jésus et de son œuvre rédemptrice. Là où l'on sonne l'Angélus le matin, à 6 heures du matin, on prie l'Angélus pour remercier Jésus de sa glorieuse résurrection, et le soir à 6 heures, on remercie Dieu de la passion et de la mort du Christ. Vous vous rappelez peut-être que l'Angélus remonte au XIIIe ou XIVe siècle. Cette prière a été inspirée par la spiritualité franciscaine. Pendant des siècles, des familles entières ont récité l'Angélus avant de passer à table. Reprenons cette belle coutume et puisons notre force dans cette prière puissante, surtout celle qui conclut l'Angélus. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Évidemment, il y a encore d'autres prières avant de passer à table, comme cette courte prière qui se chante également. Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Amen. L'essentiel, c'est de ne pas se ruer sur les plats comme des ogres, mais de garder un moment de silence pour remercier Dieu du repas et pour confier à sa miséricorde ceux qui souffrent de faim. Faire le signe de croix, si petit qu'il soit, dans un restaurant par exemple, peut être l'équivalent d'un témoignage courageux qui secourait votre entourage tiède et indifférent. La prière du soir. Le soir, c'est le moment du repos. C'est aussi le moment du bilan de la journée. Le chrétien ne va pas se coucher comme un animal, mais il remercie Dieu de la journée passée et il lui demande également pardon des fautes et des omissions qu'il a commises. D'où le grand intérêt pour un chrétien de faire l'acte de contrition avant de s'endormir. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. La nuit, c'est le royaume de l'incertitude, des ténèbres. C'est le moment de se détacher de ses certitudes et de son acquis. Mais c'est aussi le moment de sombrer dans la confiance, la prière dans la grâce de Dieu. Si vous faites la prière du soir, vous vous remettez entre les mains de Dieu et rien de ce qui pourrait arriver dans la nuit devrait vous perturber. D'ailleurs, les psychologues affirment que ceux qui prient le soir en mettant toute leur confiance en Dieu ont un sommeil plus profond, plus reposant. Ils affrontent mieux les problèmes du lendemain. Prions donc avec Siméon avant de nous endormir. Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. La prière de Siméon est une des prières que les chrétiens prononcent le plus fréquemment. Elle caractérise en particulier l'office de compli, le dernier office avant de s'endormir. Elle est citée dans Luc chapitre 2, versets 29 à 32, dans lequel Siméon reconnaît le Messie en l'enfant Jésus et annonce à Marie la souffrance qu'elle endurera. Mes chers auditeurs et chères auditrices, je vous remercie de votre attention et je vous dis au revoir jusqu'à la prochaine fois, tout en vous recommandant d'adopter le rythme ternaire quotidien de la prière du matin, de midi et du soir. Au revoir, votre Véronique.